Louise voudrait lui faire signe de se taire, de se diriger vers elle, mais il est trop tard. L'homme interroge Anna du regard. Sans hésiter, d'une voix calme, elle répond « C'est mon fils. » Anna et Simon quittent le café, encadrés par les trois hommes. Tout s'est joué en quelques secondes. Anna est déjà loin, le regard perdu. Simon suit sa mère et longe la table des deux femmes sans leur adresser la parole. Sur son passage, Louise se dresse, mais une main ferme, posée sur son épaule, la force à se rasseoir. Celle du passeur, qui la foudroie du regard. Les officiers n'ont rien vu. La porte se referme sur la nuit noire, on entend démarrer la voiture, et c'est de nouveau le silence. Esther et Louise s'effondrent, mais le passeur ne leur laisse pas le temps de réfléchir. Il est pâle, le front luisant de sueur. C'est maintenant ou jamais. Il faut partir, ramasser les affaires dans la pantie et emprunter le sentier qui mène vers la liberté. Elles se chargeront des sacs de la mère et de l'enfant. En se levant, Louise cogne un objet sous la table, le chien de Simon. Le petit garçon est parti sans son compagnon. Lui rendre les aurait condamnés. De toute façon, elle n'y a même pas songé. Elle le presse contre son visage, le mouille de ses larmes. L'homme les bouscule, les fait sortir en hâte. Esther fait peur à voir, le trait de crayon gras qui souligne ses yeux à couler lui dessine des cernes verdâtres. Son épaisse chevelure rousse accentue sa pâleur. La nuit est fraîche, malgré la saison, le ciel constellé d'étoiles. Louise serre le petit chien contre sa poitrine. Elle se dit que Simon a eu raison de le protéger avec le manteau tricoté par Anna. Une heure plus tard, elles sont en zone libre. La campagne est agitée de murmures. Les herbes ondulent au passage de chats en maraude. On entend le ululement d'un rapace. Elles avancent sur une route déserte, baignées par la clarté de la lune, cherchant un abri pour attendre le lever du jour. Louise imagine le tableau pitoyable que doivent offrir leurs deux silhouettes. Un fantôme blafard au maquillage ruisselant, qui étouffe des sanglots, et une pauvre juive claudiquante, un sac dans chaque main, un chien en peluche coincé sous le bras. De l'autre côté de la ligne, une voiture file dans la nuit, balayant de ses phares la route hostile. Vers quel cauchemar conduit-elle ses passagers? Une femme à garde et un petit garçon qui, de son œil inquiet, tente de percer l'obscurité. Louise et Esther partagent la même pensée. Elles ont échoué dans la mission qui leur a été confiée. Comment pourront-elles affronter l'arrivée à Saint-Gaultier, annoncer la nouvelle aux hommes qui les attendent? Lorsque Tania apparaît derrière les grilles de la propriété, Maxime débite à la hache le tronc d'un arbre arraché par le vent. Il a trouvé son rythme, assure son geste et la lame s'enfonce à chaque fois plus profondément dans la blessure. Cette activité occupe son esprit, mobilise ses muscles restés trop longtemps inactifs. Georges n'est pas encore rentré de la pêche, il s'est installé au bord de la rivière à l'abri d'un saule. Son seau est rempli de poissons, il imagine son arrivée dans la cuisine, la joie de Thérèse à la vue de son butin. La fille du colonel lit sur la terrasse, allongée sur une chaise longue, bercée par le choc régulier de la hache. De temps à autre, elle caresse des yeux l'homme en bras de chemise, admire son effort, l'encourage de la voix. C'est elle qui voit Tania en premier. Elle sursaute, saisie par la beauté de la jeune femme qui se tient immobile de l'autre côté du muret, un sac de voyage à la main. Une silhouette parfaite, vêtue d'une petite robe grise aux épaules droites, à la taille marquée. Elle ressent un pincement au cœur. Cette présence radieuse annonce un malheur, elle en est sûre. Les deux hommes lui ont parlé d'elle, et elle l'a reconnue, avant même que Maxime ne lève la tête pour l'apercevoir à son tour. Il tressaille, laisse sa hache plantée dans le tronc de l'arbre, et suit son front. Ils se font face. Maxime est debout, les bras ballants, à quelques mètres de Tania, toujours immobile derrière les grilles. Lorsque Thérèse surprend leur regard, elle comprend. Un nuage traverse le ciel et vient masquer le soleil de cet après-midi. Tania s'installera dans la chambre destinée à Simon, qui dispose de deux lits jumeaux. À Maxime et Georges s'empressent auprès de leur belle-sœur, lui font faire le tour du village, l'emmènent admirer l'église et le prieuré, l'accompagnent sur les rives de la Creuse. Peu après son arrivée, elle tente d'appeler ses beaux-parents, sans succès. Elle imagine le grelot du téléphone résonnant dans le salon désert, trouant un silence de mort. Elle envoie un télégramme à Martha pour la rassurer, mais ne veut pas penser à Robert. Comme une petite fille obstinée, elle a cédé à un caprice, elle est enfin auprès de l'homme qu'elle désire. Il l'attire plus que jamais. Elle lutte contre la tentation de se réfugier contre son torse, de coller sa bouche à la sienne. Rien n'a d'importance en dehors de cette force qui la possède tout entière. Jour après jour, les yeux de Maxime se font plus insistants. Elle leur répond, se laisse envahir par ces vagues de désir. Elle peut se livrer encore à ce jeu troublant. L'arrivée d'Anna et de Simon y mettra fin. À chaque fois qu'elle s'abandonne au regard clair de Maxime, elle se sait observée par Thérèse. L'institutrice réagit comme une enfant jalouse. Bouleversée par Tania, Maxime se retourne chaque nuit sans fin, obsédé par l'image de la jeune femme qui dort dans la chambre voisine. Sa chevelure répandue sur l'oreiller, sa peau hâlée, tranchant sur la pâleur des draps. Esther et Louise, à peine arrivées, s'étaient effondrées dans les bras de Maxime et de Georges. Louise me dira qu'elle ne s'était sentie ni l'une ni l'autre le courage d'évoquer l'acte suicidaire d'Anna, et avait choisi de parler d'une imprudence, d'un oubli. Comment la vie allait-elle s'organiser autour de l'absence d'Anna et de Simon, laissant chacun aux prises avec des images insoutenables? Maxime s'était réfugié dans sa chambre. Il était resté de longues heures assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Dans un coin, derrière un fauteuil, on avait déposé les sacs rapportés par Louise et Esther. Ils resteraient fermés sur leurs souvenirs. Couché sur celui de Simon, le petit chien au manteau de tricot veillait sur les affaires de son maître. Maxime n'avait pu supporter sa présence. Il avait demandé qu'on l'éloigne de lui. Son fils et sa femme aux mains de l'ennemi, sans doute parqués avec quelques milliers d'autres dans l'une de ces enceintes où la haine s'exprime sans retenue. Et lui, pendant ce temps, à l'ombre des grands arbres du parc, bercé par le chant des oiseaux, tout entier à son désir. Je tentais d'imaginer les sentiments de ma mère face à la nouvelle. L'ennemi dont elle avait fui la menace devenait un allié, balayant le seul obstacle qui se dressait entre elle et mon père. Tout devenait possible si Anna et Simon ne devaient pas revenir. À Saint-Gaultier, on essaie de se rassurer. On veut croire que la mère et l'enfant sont détenus dans l'une de ces localités dont le nom sera sali à jamais. Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande. On y souffre de la promiscuité, on y manque de tout, mais comment imaginer que l'on puisse y mourir? Seul le colonel en sait davantage. Ses échanges avec les réseaux de résistance, les informations que lui font parvenir ses contacts américains, lui ont appris l'existence d'un mal absolu au-delà des frontières. Il n'en a parlé à aucun de ses hôtes, il ne veut pas ajouter à leur inquiétude, et refuse encore de croire à une telle entreprise de destruction. Maxime, enfermé dans sa chambre la plus grande partie de la journée, trace autour de lui un cercle de silence. On ne sait que lui dire, on respecte sa douleur. Dans la grande demeure, les ombres d'Anna et de Simon planent sur chacun. On croit entendre les cavalcades du petit garçon dans l'escalier. On voudrait l'emmener se baigner dans la Creuse. On imagine Anna sur la terrasse, occupée à sa broderie, couvant des yeux son mari et son fils qui luttent sur l'herbe du parc. Tania, pour s'éloigner de Maxime, passe ses journées en compagnie d'Esther et de Louise. Elle se promène dans les chemins de campagne, parle de tout, sauf d'Anna et de Simon. Comment Tania pourrait-elle encore jouer avec le désir de Maxime? Elle l'évite, baisse les yeux lorsqu'elle le croise. L'absence de sa femme et de son fils dresse entre eux une barrière infranchissable. Les semaines passant, Maxime revient peu à peu à la vie. Il sort de sa chambre pour débiter du bois à longueur de journée ou part pour de longues marches. Chacun l'observe à la dérobée, guettant une étincelle de vie dans son œil éteint. Quand la maison s'éveille, la table est déjà mise pour le petit déjeuner. Sur la nappe trônent un pain frais, un pot de confiture. Maxime, levé dès l'aube, s'est occupé de tout, après sa gymnastique matinale. Il ne peut s'attarder au lit. Dès son réveil, l'angoisse pèse de tout son poids. L'idée d'un détour par la chambre